Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Capitinal et je suis accompagné à l'animation de ce podcast par Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, bonjour, ça va bien?
Oui, très bien. Guy, qu'est-ce qui occupe tes journées de confinement ces jours-ci?
Ah, qu'est-ce qui occupe mes journées de confinement? Ben, en fait, je travaille à la version, une nouvelle version de ma formation Kubernetes. Donc, la formation que j'ai 3 jours là, sur Kubernetes et Docker là, sur Azure. Mm-hmm. Ben, je suis en train d'en faire une version pour AWS.
Ah, donc une nouvelle... Puis est-ce que tu étais assez familier avec AWS ou il y a vraiment beaucoup de nouveautés pour toi? Ça veut dire que tu apprends beaucoup sur le merveilleux monde d'Amazon?
Ben, je te dirais, c'est une combinaison, là. Je m'intéressais un petit peu à ce qui, étant plutôt focusé sur Azure, je m'intéressais à ce qui se passait un petit peu ailleurs. Puis c'est sûr que c'est assez une plateforme qui est assez différente, hein, qui est plus centrée vers les IT pro. Donc tout ce qui est réseautique, networking, c'est remonté à la surface là, c'est très visible. Faut se taper ça. Du côté d'Azure, je pense que je dirais pas que c'est caché, mais c'est moins. C'est un environnement qui est plus facile pour quand tu as un background de développeur là. Mais bon, c'est des plateformes qui sont riches, hein, qui contiennent plein de services. Beaucoup à apprendre, puis ça va être une formation qui va être intéressante. J'ai bien hâte.
Mm-hmm. Puis nous, on fait toujours à chaque mois, donc nos auditeurs peuvent prendre conscience à l'écoute que confinement, pas confinement, ou que début de déconfinement, c'est ce qui se passe au Québec. Ben, on continue à enregistrer le podcast. On a la chance de faire les enregistrements à distance, donc on n'a jamais eu de problème avec le virus. Aujourd'hui, notre invité est Carole Delambre. Bonjour, Carole.
Bonjour, monsieur.
Hey, salut, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous autres?
Oui.
Carole, moi, j'ai pas la chance encore de te connaître. C'est la première fois que je fais une activité avec toi. Mais autant Guy que ben Guy peut-être avait la chance de te connaître avant moi.
Non, c'est la première fois.
Aussi. Parce qu'on a reçu un courrier, nous, il y a un email il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, de quelqu'un qu'on Alexandre Brisebois, donc une connaissance commune, qui nous disait écoutez les boys, pour votre podcast, là, vous faut absolument vous inviter Carole Delan. Il fait des choses intéressantes du côté de DevOps, au niveau des organisations, des principes d'organisation en équipe. Ça ferait un bon podcast. Puis en profiter en même temps pour nous dire, hey, il m'a recommandé un super livre sur justement les principes d'organisation en équipe. Puis, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis, ce qui fait que presque 2 mois plus tard, on se retrouve en train d'enregistrer un podcast sur justement le DevOps, parce que c'est ce que tu fais au jour le jour, Carole, et les principes d'organisation en équipe.
Oui, en fait, c'est sûr que je travaille pas à tous les jours là, juste à faire de l'organisation en équipe, là, mais ça a été quelque chose qui nous a été demandé finalement de la gestion, là, d'arriver avec une recommandation de comment faire évoluer finalement notre modèle plutôt traditionnel là, en département traditionnel pour le faire évoluer vers le monde DevOps pour voir comment on devrait s'organiser plutôt dans ce mode-là pour arriver à adopter vraiment les pratiques DevOps. Donc, c'est de là qu'est venu le... Puis à peu près au même moment, finalement, un peu auparavant, le livre était disponible. Puis à peu près au même moment, là, il a commencé à circuler dans l'organisation. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour le lire. Puis justement, là-dedans, on a trouvé plein de choses qui pouvaient nous aider à cheminer, finalement, dans l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, finalement.
Parce que toi, au jour le jour, là, tu fais de la consultation. Tu travailles pour quelle firme?
Non, je suis employé interne, moi, de IA Groupe Financier à Québec. Donc, je suis pas en consultation, mais je travaille pour c'est comme un consultant interne, si on peut dire. Je travaille au centre d'excellence à DevOps pour l'organisation. Donc, j'ai un background plus d'architecte logiciel à la base, mais comme je disais, on nous a demandé d'arriver avec une recommandation qui est un peu moins naturelle là, pour nous de travailler là-dessus, mais qui vise plus à voir comment que les équipes peuvent interagir de manière différente de ce qu'on est habitué de connaître dans les grosses organisations qui ont un modèle plutôt traditionnel de séparation des tâches.
Ah oui, je comprends ma confusion, c'est qu'essentiellement, toi, ton rôle, c'est un peu comme un groupe, tu travailles dans un groupe expert, mais au sein de ton entreprise.
Exactement.
Puis, ça fait combien d'années que tu es dans cette organisation?
Ça va bientôt faire 8 ans.
Parce que t'es quand même pas si vieux que ça, là.
Non, 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 non. Mes enfants trouvent que je suis plus vieux que ça, là, mais je suis blanc, mais c'est autre chose, là. Mais non, non,
Combien d'années que tu fais d'informatique?
moi, ça va faire 16 ans bientôt. J'ai commencé à 19 ans, donc ça fait quand même déjà un bon bout de temps.
Puis qu'est-ce qui t'avait amené à l'informatique? Y avait-tu comme, tu sais, des fois on a une histoire en disant ah, ou comme un éclair, ou une espèce de
Ouais, c'est pas très très c'est assez terre à terre en fait là. C'est que j'avais le choix entre deux domaines quand j'étais au secondaire, puis je faisais de la musique, puis je faisais déjà de l'informatique chez nous pour m'amuser. Puis ben c'est ça, finalement j'ai décidé de faire de l'argent. Fait que j'étais allé en informatique.
C'est une décision très terre-à-terre.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, la musique, c'est le fun. On peut toujours en faire en hobby, ça se fait bien. Fait que c'était comme une façon de garder les deux aussi, là.
Ouais, puis c'est juste que tu augmentes tes chances de faire de l'argent en faisant de l'informatique parce qu'il y a quand même, je sais que c'est de plus en plus difficile pour les musiciens, là, surtout avec les salles de spectacle qui sont fermées,
Ouais, j'étais
mais...
surtout conscient de mes chances aussi.
C'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on se dit, ouais, finalement, tu sais, dans le domaine de la musique, beaucoup, beaucoup de gens s'essaient, mais peu d'appelés ou en tout cas peu de personnes vont vraiment réussir. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. Ce qui fait que tu dis, ouais, si je veux augmenter mes chances, peut-être mieux aller en informatique. Ça
Exactement.
paraît bien. Puis, tu demeures dans la région de Québec.
Oui.
Puis, donc, et votre organisation. Vous utilisez intensément Microsoft Azure, si je me trompe.
De plus en plus, oui. C'est pas mal le fournisseur cloud qu'on utilise, je dirais, principalement, là, étant donné qu'on est une grosse compagnie financière, on utilise beaucoup de solutions cloud, là, de manière générale, là, mais je dirais que pour notre développement maison, puis pour la plupart de nos solutions, c'est le fournisseur cloud avec lequel on a plus d'affinité, finalement.
Puis, c'est ce qui a fait que bon, tu t'es retrouvé en relation avec Alexandre Brisebois, qui, comme on l'expliquait, nous a contactés. Moi, je suis curieux ce fameux livre-là. Bon, c'est quoi le titre du livre, juste pour qu'on mettra la référence dans les notes du podcast, mais le titre du livre, c'est...
C'est Team Topologies, Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. Donc, c'est vraiment orienté pour nous aider à structurer nos équipes afin de livrer de la valeur d'affaires de manière rapide, là, finalement.
OK. Puis, qu'est-ce que, bon, si je te disais, là, de l'ensemble du livre, l'élément clé pour toi qui a été comme une espèce de souvent, on va parler d'un aha moment, là, où est-ce qu'on fait comme, ah, attends, j'avais pas vu des choses comme ça.
Mais pour moi, c'est vraiment. En fait, c'est des choses que je veux pas, à force de travailler dans un domaine comme nous dans l'informatique, là, présentement, on fait des projets, on travaille avec des équipes, on voit bien comment les gens vivent certaines problématiques ou réussissent dans certains contextes, puis vient à se dégager quelque chose de non-dit finalement là-dedans par rapport à des éléments de succès ou d'échec. Puis moi, je le traitais souvent par rapport à un angle d'architecte ou d'architecture logicielle. Puis, ce que je trouvais bien avec ce livre-là, c'est qu'il arrivait à mettre des mots, à l'expliquer, tout ce que ça avait comme implication au niveau d'une organisation qui voulait adopter ces principes-là au niveau plus technique, mais sans en parler du technique. Donc, c'est vraiment là qui est la force du livre, je trouve. C'est qu'il est capable d'expliquer finalement, sans tomber dans le technique, d'expliquer les fondements qui sont nécessaires dans une organisation pour arriver à livrer de la valeur rapidement sans parler de microservices, puis de technologie cloud, puis d'automatisation et tout ça, là. Fait que c'était vraiment, ça revient au principe de base du lean puis du DevOps. Ça part de là, puis ça dit, ben, si vous voulez adopter ces principes-là, ben, vous allez probablement devoir vous adapter finalement en termes de structure d'équipe, puis pour y arriver, pour aller chercher la pleine efficacité finalement de ces principes-là.
Puis toi, avant de lire le livre, est-ce que tu étais familier avec la fameuse loi de Conway là, qu'on utilise beaucoup en architecture?
Oui, beaucoup, parce que moi, j'ai beaucoup, je fais quelques présentations là-dessus dans des conférences, tout ça. J'ai beaucoup étudié les principes du microservice, surtout à la base, parce que j'y croyais pas. J'étais un peu Thomas, moi, dans l'angle. Puis je trouvais que c'était donc ben une mauvaise idée de vouloir absolument faire plus de communication réseau, pour faire de plus d'appels à distance entre deux processus. Je trouvais qu'au côté performance, ça n'avait aucun sens. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis, bon, plusieurs formations, plusieurs lectures, tout ça, plus loin, je me rends compte que finalement les microservices comme tels, c'est intéressant, mais ça prend beaucoup de choses pour acquis dans le contexte d'exécution. Entre autres, justement, si on veut faire des microservices, morceler l'architecture, mais qu'on n'a pas d'automatisation, qu'on n'est pas capable de livrer rapidement nos services, ben ça sert à rien de le morceler, on va juste avoir plus de misère à faire nos tests manuels. Donc, c'est plein de choses comme ça qui s'accumulent, puis on en vient vite à constater finalement que ça a aussi un lien avec l'organisation en équipe. Si on veut faire plusieurs services, puis que c'est plusieurs équipes qui maintiennent ces mêmes services-là, ben ils vont toujours rentrer en collision entre elles pour savoir qui va livrer quand, puis quand est-ce qu'on va faire les phases d'essai d'acceptation, admettons. Donc, il y a un très, très fort lien entre la structure qu'on a en équipe et aussi l'architecture logicielle qu'on veut mettre en place. Puis dans le fond, moi, j'avais déjà pris conscience de ça. J'essayais de faire soulever ces enjeux-là, finalement, dans les différentes discussions que j'avais, mais de lire un livre comme tel qui en parlait puis qui appuyait un peu ça, c'était sans parler de technique. Donc, c'était vraiment intéressant de voir que finalement, ça vient comme confirmer des choses qu'on a comme compris sur le terrain puis qu'on a vécu finalement. Puis c'est le fun d'avoir des gens qui se sont donné la peine de faire des recherches là-dessus puis de documenter comme il faut pour s'en servir de base de communication finalement entre différents groupes de personnes.
Parce que c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que, bon, tu sais, en 2020, beaucoup, beaucoup de gens vont faire la promotion, là, de dire, ah, votre architecture devrait être basée sur des microservices. Puis, essentiellement, eux, ils ramènent en disant, ben, écoutez, si vous voulez faire du microservice, ben, vous allez avoir, au moins deux enjeux. Un qui est la structure de votre organisation, d'où la référence à la loi de Conway. Et un autre enjeu qui est d'automatiser, donc d'avoir besoin du DevOps. C'est ça pour. Je pense que c'est ça le but du livre, c'est de unifier un peu la structure organisationnelle, le DevOps et les microservices, ou c'est plus vaste que ça?
Ben en fait, eux autres, ils sont partis un peu plus, je dirais, agnostiques de tout ça, là. Eux autres, c'est vraiment des principes de fast flow qu'ils disent en anglais, donc de livraison rapide puis de livraison de valeur, en éliminant les embûches, les mudas et tout ça. Puis ils ont vraiment. Ils arrivent finalement à juste à partir de là, dire finalement que l'organisation en équipe doit être alignée avec les différents flux de valeurs que vous voulez avoir. Puis après ça, ben il y a même différents concepts là, qu'on pourra passer en revue, mais qui vont nous permettre de savoir, OK, mais quelle taille une équipe devrait avoir, puis comment qu'on fait pour séparer. Parce que c'est facile de dire qu'il y a une équipe de s'occuper d'une seule chose, mais à un moment donné, quand on se met à creuser puis à détailler, ben, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont similaires. Est-ce que ça devrait être deux équipes? Est-ce que ça devrait être juste une? Est-ce que des fois on a des gros projets, on est 10 équipes à travailler ensemble, bon, comment ça travaille tout ça, comment ça interagit ces gens-là, bon, différentes façons des critères là, pour venir nous aider à structurer notre découpage.
Là. Ok, je comprends. Mais, donc si on revient à la base, là, si je te demandais en quelques mots nous résumer, qu'est-ce que c'est la loi de Conway?
Ouais, la loi de Conway, c'est une loi qui a jamais vraiment été prouvée, à part que il y a jamais quelqu'un personne qui était capable de l'infirmer non plus. Mais c'est une loi finalement pratique là, où on dit que la structure du logiciel qu'on est en train de construire va être calquée sur la structure de communication de notre organisation. Puis là, dit comme ça a l'air un peu bizarre, mais en réalité, on a plein d'exemples où on était dans une équipe de développement, on s'est dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, mais il faut que je le fasse faire à une autre équipe. Puis là, finalement, on se dit, ben, il doit y avoir moyen que je fasse quelque chose sans avoir à interagir avec l'autre équipe, puis je vais le faire de mon côté, comme ça, genre, ça va aller plus vite. Fait que c'est un peu les forces qui entrent en confrontation, où on se dit, ben, tu sais, normalement, ça devrait être fait par une autre équipe, mais comme c'est compliqué de, un, s'arrimer avec eux autres, leur passer une commande, s'assurer que c'est livré à date et tout ça, ben, des fois, ben, on va prendre une tangente où on se dit, ben, je vais rester maître à bord, puis je vais faire les affaires de mon côté, puis là, ben, ça vient teinter l'architecture logicielle aussi qu'on est en train de faire à cause de ça.
Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de la loi de Conway, ça remonte dans le fond, j'avais pas encore de cheveux blancs. Mais l'exemple qu'on m'avait donné à l'époque, c'était, on faisait référence à Eric Raymond, qui est un développeur bien connu là, dans la communauté open source, parce que c'est. Puis il avait écrit un article qui avait été sur justement la mentalité open source. Puis lui, c'est la référence qu'il disait, puis c'est quelqu'un qui était beaucoup impliqué, tu sais, dans la construction de compilateurs. Puis il dit, ben, si vous faites construire un compilateur par quatre équipes différentes, vous êtes sûr qu'à la fin, vous allez avoir un compilateur qui va avoir quatre passes parce que chaque équipe va définir son module à lui. Puis parce que la structure de communication de cette organisation-là avec quatre équipes fait que tu vas te retrouver avec une architecture à quatre niveaux. Puis ça, à l'époque, ça m'a fait rire. Je trouvais, ça, il y a vraiment raison parce qu'on voit ça souvent. Mais ça m'avait comme tellement intrigué que là, j'avais commencé à éplucher un peu plus, comprendre qu'est-ce que c'est ce. C'est qui ce monsieur Conway-là, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie?
Ouais, c'est drôle parce que je suis sur le site de Wikipédia, puis écoute, ça date pas d'hier, là, cette affirmation-là, ça date de 1967.
Oui, tout à fait.
Ouais, puis il y a une référence exacte sur ce que tu viens de dire, c'est « If you have four groups working on a compiler, you'll get a four-pass compiler ».
Ouais, ben c'est parce que cette citation-là d'Éric Raymond, je pense qu'elle est utilisée à plusieurs sauces, donc elle est bien connue là. Il y a une autre citation que les gens font référence souvent. Ils disent si vous regardez un peu comment est construit un iPhone, en tout cas la version 1 du iPhone, où est-ce que tu avais une, tu sais, l'interface était très hiérarchique. À toutes les fois, il fallait que tu repartes de ton fameux panneau de départ. Puis là, ben, tu pesais sur l'application, puis là, tu rentrais comme dans le détail, puis là, tu reviens toujours au départ pour repartir. Puis les gens faisaient un peu une analogie en disant, ben, c'était un peu comme ça que chez Apple, ça fonctionnait. Tout partait d'en haut, puis il y avait comme toujours un seul décideur. Là, on parle de l'époque de Steve Jobs. Puis, mais ça se peut, en tout cas, c'est peut-être pas bête. Peut-être que c'est ça, puis peut-être que c'est juste une histoire inventée, on saura jamais, là. Mais toi, donc, tu es familier avec la loi de Conway, tu lis ça dans le livre, puis ce qui est intéressant au niveau du livre, c'est qu'ils vont dire, ben écoute, si tu veux vraiment être capable de mieux, plus simplifier, enlever tout ce qui est du bruit sur la ligne ou tout ce qui est finalement des dépenses non nécessaires quand tu fais du DevOps, il y a des structures, il y a des patterns d'organisation que tu pourrais mettre en place pour avoir une capacité de livrer plus de valeur. C'est un peu ce qu'ils disent dans le livre, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Il arrive avec différentes. Il y a un peu ça des types d'équipes, là, finalement, desquelles on peut s'inspirer. Puis, en fait, c'est assez comique parce en les lisant, moi, je suis capable. Ben, il y avait plusieurs équipes qui, à chaque fois que j'en lisais un type, j'étais capable tout de suite de m'imaginer quelques équipes que je connaissais dans mon organisation qui cadraient exactement avec cette description-là. Donc, c'était vraiment. Il y a vraiment pas d'équipe là qu'on se dit ok on caserait nulle part là, ça concorde pas en général là, on finit toujours par être capable de caser dans une des quatre types d'équipes là qu'on a donc c'est assez parlant puis en plus c'est ça donne une espèce de cadre là, pour identifier les équipes après là. Ça facilite la communication quand on veut parler de structure d'équipe.
Ben, si on les énumère ou on les présente là, eux autres ils en présentent quatre hein, je pense quatre types d'équipes.
Oui, dans le fond, on a la stream aligned, c'est le terme en anglais, donc aligné sur le flux de valeur, finalement. Après ça, on a l'équipe qu'on va appeler l'enabling team, donc une équipe qui va permettre plutôt
Il va faire arriver les choses.
ouais, qui va rendre possible quelque chose qu'une équipe simple n'était peut-être pas capable d'atteindre seule. Après ça, on a l'équipe qu'on appelle le sous-système compliqué. Puis ça, j'ai quand même un bon exemple à vous en parler après, là. Donc ça, c'est souvent un parti de logiciel qui est peut-être trop compliqué, qui va demander une expertise trop pointue, puis qu'on ne pourra pas distribuer dans plusieurs équipes. Donc, on va être obligé de prendre nos gens qui connaissent ce sous-domaine-là, puis des mettre en un seul endroit pour être capable qu'ils travaillent ensemble. Puis eux autres vont offrir un service à d'autres équipes. Alors, ensuite, on a aussi l'équipe plateforme. L'équipe plateforme, ben, c'est une façon d'offrir finalement un service dans l'organisation qui va servir de building block finalement pour d'autres équipes.
Donc là, on vient d'énumérer, si on revient un peu en détail sur chacun. Donc, celle qui est, par laquelle tu aimerais mieux commencer Parce qu'il y a peut-être une façon de les présenter plus
Ouais, je
logique
pense que la plus simple, c'est la Streamline. Dans le fond, on est tous capables d'imaginer dans notre organisation des flux de valeur là, qui sont la mission même de notre organisation. Là. Donc, je prends par exemple, nous, c'est une compagnie de services financiers. Là. On fait de l'assurance, mais on fait aussi des placements, tout ça. Bon, ben, ça, c'est pas mal nos produits. Donc, si on dit, ben, j'ai une police d'assurance à vendre, ben, je vais avoir une équipe qui va faire des produits qui ben, informatiques qui vont aider à nos représentants à vendre ces assurances-là. Donc, on voit que le flux de valeur est assez clair. J'ai un client qui va acheter une police, puis ben, il nous contacte, on fait tout ce qu'on a à faire pour au final lui obtenir sa valeur qui se trouve à être la police d'assurance ou le produit de placement qu'il veut acheter. Donc, ça, c'est une équipe qui va être dédiée finalement à ces clients-là, puis qui va prendre une partie peut-être d'un produit ou d'un ensemble de choses à faire, puis va être aligné à livrer juste cette valeur-là. Donc, il va toujours avoir des modifications à faire, des nouvelles fonctionnalités à développer. Puis, son but à cette équipe-là, elle, c'est d'aller le plus vite possible, pas pour se débarrasser, mais vraiment pour être capable d'aller valider leur hypothèse de produit directement avec l'utilisateur. Donc, si on prend une hypothèse on pense être capable d'aller chercher un gain de 5% dans les ventes en mettant en place tel élément de fonctionnalité dans notre logiciel, ben, faut être capable de le valider assez rapidement que ça obtient vraiment les gains qu'on estimait. Donc, c'est là qu'il est important d'avoir un flux de livraison de valeur qui est sans arrêt, qui continue pour arriver à avoir le feedback rapide. C'est ça que nous amène le DevOps, finalement.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est, je comprends très, très bien, quand c'est très aligné avec le cœur de ton entreprise, le flux de valeur, c'est évident, là, tu sais, mettons, je sais pas, si je suis une compagnie qui fabrique des portes et des fenêtres, ben, si, par exemple, je me ferais un logiciel pour aider à pouvoir designer des portes, ben, c'est très, très, très en lien un à un avec ce que mon entreprise fait. Je me pose la question, si c'était, par exemple, souvent, les organisations vont se faire des outils ou des logiciels spécialisés, mettons, pour la partie plus support, plus service aux ventes. Ça, est-ce qu'on va dire que c'est streamlined dans ce temps-là ou c'est juste à la frontière?
Oui, parce qu'en fait, c'est utilisé par. Ben, c'est sûr que c'est pas des gens qui vont payer nécessairement pour avoir une fonctionnalité à ce moment-là, parce que ça dessert quelqu'un qui est à l'interne de l'organisation. Mais c'est quand même vu on payait par émulation dans ce temps-là, c'est que ça concorde pas non plus avec les autres types d'équipes qu'on a. C'est quand même des gens qui sont là pour livrer de la valeur à un client, un utilisateur donné. Puis ça a un impact direct sur la vie de la personne qui utilise le logiciel, ce qui est pas nécessairement vrai avec les autres types d'équipes, là.
OK. Donc, tu sais, aujourd'hui, ça va être assez classique, mettons, je sais pas moi, que les gens du sport vont s'acheter un outil pour où ils vont faire mettre en place un centre d'appel, puis ils vont avoir tous des outils pour être capables de coordonner que la gestion des emails, même aujourd'hui, les messages textes, la web, ces choses-là. Mais si on remonte à une vingtaine d'années, souvent, c'était des produits maison, là, c'était pas encore des produits qu'on pouvait acheter dans l'industrie. Donc, ça aurait pu être le cas là, dans les années 90, avant le 21e siècle, qu'on retrouve ce type de produit-là là, vraiment au cadre de l'organisation.
Il y a peut-être juste une
Sauf.
nuance à apporter. Excuse-moi,
Non,
Mario.
c'est
Il y a peut-être
bon.
juste une nuance à apporter dans le fond, parce que au niveau de certains services comme ça, très internes, je t'entendais parler de messagerie. Mettons qu'on parle des courriels et tout ça. Là, ça pourrait être quelque chose qui peut servir à construire une autre solution. Donc, c'est oui, il y a les services de courriel qui est utilisé par les gens au jour le jour là, pour s'échanger des courriels, mais des fois, on va le voir peut-être plus comme un service de plateforme là, finalement en arrière où on dit ben ça nous sert
Ah oui.
à générer finalement de la valeur en construisant d'autres solutions parce qu'on a beaucoup de je sais pas moi de solutions qu'on met en place qui ont besoin d'envoyer des courriels donc dans certains scénarios comme ça admettons on a nous autres une plateforme chez nous de workflow ben tu sais c'est oui on a des gens qui l'utilisent mais ça sert aussi à d'autres processus on peut le voir des fois comme une plateforme aussi fait que c'est pas toujours blanc ou noir là. Mais il y a certains éléments comme ça qui sont plus back office qu'on pourrait dire là, qui pourraient peut-être être vus plus comme des plateformes des fois là.
Donc, ben, on aborde, veux pas, justement, un des quatre types, là, le type des équipes pour les plateformes. Qu'est-ce qui différencie finalement une plateforme de ceux qui sont alignés sur le flux de valeur?
Généralement, les équipes plateformes vont fournir un livrable ou un produit qui va desservir justement une autre partie de l'organisation. Donc, si, mais on parle vraiment des équipes les Streamline Team là, qui eux autres livrent des solutions logicielles aux clients. Donc, si un bon exemple qui est facile à comprendre, c'est si on regarde, admettons, une équipe qui aurait à gérer, à mettre en place une plateforme comme celle de Kubernetes dans une organisation, ben Kubernetes tout seul, il fait à peu près rien. Il faut y développer, il faut y déployer une application, il faut aller installer quoi par-dessus, tu sais, mais Kubernetes comme tel, c'est une capacité que l'entreprise a après ça d'héberger des applications, d'héberger des solutions. Donc, l'équipe qui se met en place puis qui supporte et qui fait évoluer cette plateforme-là est véritablement une équipe plateforme. Donc, c'est quelque chose qui dessert ou qui supporte les autres fonctions de l'entreprise. Donc, on peut avoir ça, on pourrait avoir une équipe, une plateforme, comme je disais tantôt, de plus de workflow, on pourrait en avoir une autre plus pour... peut-être tout ce qui est la gestion de la posture de sécurité, il y a différentes fonctions dans l'organisation qui sont là vraiment pour aider les autres parties à fonctionner efficacement. Donc c'est là qu'une équipe plateforme vient soutenir vraiment les autres, puis normalement ne fait pas affaire directement avec des clients finaux, là, ceux qui versent de l'argent à l'entreprise.
Donc, puis j'imagine que quand tu regardes plus d'un point de vue stratégique au niveau de ton organisation, toutes tes équipes plateformes, théoriquement, si tu décides d'avoir une équipe plateforme, c'est que tu veux te créer un avantage concurrentiel sur la compétition, parce que s'il n'y a pas d'avantage concurrentiel, tu devrais plus acheter une solution déjà toute faite que de la construire toi-même. Donc, si tu décides de la construire toi-même, c'est parce que tu cherches à aller chercher quand même un avantage concurrentiel, parce que, tu sais, encore là, c'est entre build ou buy, entre acheter ou construire soi-même. Ben, s'il y a aucun, tu sais, si c'est quelque chose qui est plus comme une commodité à jette, tu sais, je pense pas que dans votre organisation, vous avez construit vous-même une plateforme pour faire vos grands livres financiers, là. Imagine que vous prenez des logiciels de comptabilité plus classiques parce qu'il n'y a pas de différenciation. Puis là, je suis en train de dire une subtilité parce que je ne connais pas ton domaine. Peut-être que tu vas dire, non, Mario, c'est plus subtil que ça. On a nous-mêmes des plateformes pour cette partie-là parce qu'on veut se différencier de nos compétiteurs. Mais encore là, les équipes plateformes, il y a toujours cette question-là. Est-ce que je construis moi-même ou est-ce que j'achète une solution prédéfinie?
Oui, il y a différents critères qui font qu'on peut décider ou non, soit de mettre en place une équipe plateforme déjà à la base, ou finalement après ça, quand on décide qu'on a besoin d'avoir de quoi comme une plateforme qui dessert d'autres équipes, là on va décider si on achète quelque chose, puis ça va quand même prendre une équipe, là, même si on achète, on va prendre une équipe qui le met en place puis qui le fait
effectivement,
évoluer.
T'as raison.
Mais il y a aussi, une fois qu'on a décidé qu'on met une équipe plateforme en place, on peut décider de personnaliser aussi la solution. Comme, c'est pas parce qu'on décide de prendre Kubernetes, même avec un service comme OKS dans Azure, qu'il n'y a rien d'autre à faire alentour. Il y a probablement des choses qu'on peut faire pour aider les équipes de livraison qui vont avoir tout le temps, 80% du temps, le même problème à résoudre. Donc, vous déployez une application .NET Core dans Kubernetes, normalement, ça devrait toujours se ressembler. Il y a tout quoi qu'on est capable de faire, une fois pour tout le monde, qui va nous permettre d'avoir un gain d'efficacité à l'échelle. Une chose qu'on n'a pas mentionné pour l'équipe plateforme, c'est bien important, c'est que la plateforme ne devrait pas être là en mode on l'a mis en place, puis après ça, on fait des demandes par un système de ticketing pour avoir accès. Là. Ce qui est bien fondamental dans une plateforme, c'est qu'elle devrait être offerte en libre service ou en libre service encadré au minimum. Pour être capable de faire en sorte que les équipes qui en ont besoin sont autonomes dans le moment où ils peuvent utiliser le service ou non. Donc, dans le livre, justement, on fait référence à une dame dont j'oublie la compagnie dans laquelle elle travaillait, mais elle disait les gens devraient dépendre de notre plateforme, ça c'est correct, mais ils ne devraient pas dépendre de nous, ils ne devraient pas dépendre des gens qui travaillent pour arriver à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. C'est là la distinction aussi d'une équipe plateforme, c'est qu'il y a un truc qui est offert en libre service, puis les gens vont venir le consommer s'ils ont besoin, puis normalement, ça ne devrait pas être compliqué finalement.
Donc, un exemple qui me vient en tête, c'est la majorité des organisations, ils doivent à un moment donné dire, est-ce que je vais, par exemple, utiliser une plateforme comme Office 365, qui maintenant Microsoft a renommé ça comme Microsoft 365, mais c'est pas parce que tu acquiers cette plateforme-là qu'il n'y aura pas une équipe pour justement la mettre en place, la supporter, la faire évoluer au sein de ton organisation, mais l'objectif, c'est pas que les gens placent des appels à ces gens-là pour dire, peux-tu, par exemple, venir me déployer Teams pour mon groupe, parce que ça devrait tout être en self-service, c'est-à-dire que les gens, puis je pense que c'est l'objectif là, de Microsoft 365, c'est que tu rends autonomes les équipes pour qu'ils soient capables, eux autres, d'utiliser les outils.
Exactement. Puis on devrait mesurer la performance des équipes plateforme de cette manière-là aussi. On devrait être capable de suivre à quel point c'est facile d'utiliser leur plateforme, puisqu'il y a un gain dans l'utilisation, dans l'adhésion des gens sur cette plateforme-là. Même si c'est des équipes de dev là, qui des fois n'ont pas le choix d'utiliser ça, mais on devrait être capable de mesurer ça pour amener une dimension un peu différente qui traditionnellement était plus, ben OK, j'ai répondu à mes 14 tickets que j'avais normalement à répondre aujourd'hui, je suis dans mes normes. Et il faut aller plus loin que ça, puis il faut arriver à trouver une justification de nos investissements des fois, parce qu'on va vouloir aller chercher du budget pour ajouter une fonctionnalité que la plateforme de base n'avait pas, ben il faut l'expliquer en disant ben cette plateforme-là va nous permettre d'aller chercher un gain pour l'ensemble des équipes de livraison, pour un gain de, je sais pas moi, de temps de, je sais pas moi, 3 jours par sprint pour chacune des équipes.
OK. Donc là, on vient de voir deux types d'équipes. Donc le premier type d'équipe qui sont aligné sur le flux de valeur, donc aligné sur ce qui est le cœur de ton industrie ou en tout cas de ton entreprise. Puis un autre type d'équipe qui est le type plateforme qui essentiellement a pour objectif de simplifier puis de rendre des services justement aux équipes qui font les produits cœur ou en tout cas qui fournissent la valeur principale. Puis là, il reste quand même deux autres types d'équipes. Donc, sont presque celles qui s'appellent. Ben, laquelle des deux t'aimes mieux que t'aimerais traiter comme en troisième cas?
On pourrait parler de la Enabling Team, en fait, qui, elle, vise principalement à rendre possible une capacité supplémentaire dans une équipe existante. On peut penser justement à l'adoption d'une nouvelle pratique. Si on a une équipe qui n'est pas habituée de faire des tests automatisés, par exemple, ben on pourrait avoir une équipe qui vienne épauler cette équipe-là pour l'aider à adopter justement ces pratiques-là, se faire coacher sur comment faire des bons tests, des petits tests, des tests plus larges, apprendre finalement cette expertise-là qui va être. Puis on va pairer c'est l'équipe, l'Enabling Team, finalement, avec une équipe Streamalign pendant un moment déterminé. Là, c'est pas quelque chose qui va se faire sur une très longue durée, mais puis ça a un objectif précis généralement. Donc, on va cibler un objectif, puis on va s'assurer qu'on atteint notre objectif à la fin de l'intervention. Puis après ça, ben l'équipe qui a été amenée en renfort va juste se retirer puis aller aider une autre équipe sur un autre sujet, là.
Puis, mettons, si on prend un exemple, tu donnais l'exemple de, on veut améliorer notre capacité à faire des tests automatisés. Donc là, on crée une équipe pour aider à l'adoption de ça. C'est sûr qu'il y a un temps fini, là, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va vivre éternellement. Donc, après 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, à un moment donné, les objectifs sont atteints. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant avec ce nouveau savoir-faire-là que l'équipe a, que l'organisation a acquise d'être capable de faire des tests automatisés? Ça va être transféré vers les équipes plateformes ou transféré vers l'équipe de flux de valeur, le nouveau savoir-faire?
En fait, c'est ça, c'est que le nouveau savoir-faire, il est transmis par l'Enabling Team vers une équipe d'alignés sur le flux de valeur, donc un streamer.
Ah, OK. Donc, à la fin, eux, ils se retirent parce que c'est l'équipe avec qui ils travaillaient qui a maintenant acquis ce nouveau savoir-faire-là.
Exactement, c'est ce qu'on souhaite en tout cas.
Ah, OK. Ah, donc ça aide mieux à comprendre à quoi ça sert, ce type. Donc, souvent, c'est des squad teams, des équipes qu'on crée spécifiquement pour un objectif bien précis, puis un coup que l'objectif est atteint, merci, bonjour, on vous redéploie sur d'autres choses. Puis j'imagine qu'il y a des gens dans des organisations qui sont connus pour faire pour être des bons participants dans ce type d'équipe-là. C'est ce qu'ils aiment faire.
Oui, c'est ça. Comme nous, chez nous, on a des centres d'excellence qui peuvent interagir de cette manière-là avec d'autres équipes. Ou des fois, ils vont être plus là en mode ad hoc, mais d'autres fois, on prête des gens finalement pour une période de temps à une autre équipe pour justement favoriser le transfert de connaissances et tout ça. Donc, c'est une affaire qui se fait assez souvent, peut-être plus dans les grosses organisations, là, étant donné qu'on a plus d'économies d'échelle à faire ça, là. On est capable d'avoir cette structure-là. Mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Puis d'autres fois, ces gens-là ne seront pas nécessairement impliqués au jour le jour dans le travail avec l'équipe alignée sur le flux de valeur, mais va servir de facilitateur avec d'autres équipes alentour. Donc, va pouvoir prendre peut-être certaines balles sur ben là, je veux mettre en place une nouvelle façon de faire dans l'organisation. Est-ce que tu peux aller t'occuper de voir les 3 ou 4 différents départements que ça va concerner pour justement faciliter l'avancement ou l'évolution de nos façons de faire? Donc, ça peut être vu sous différents angles, finalement, mais l'idée, c'est toujours d'avoir une présence momentanée, finalement, de quelques personnes pour venir nous aider à rendre possible quelque chose qui n'était pas avant, là.
Bon, là, si on prend le scénario où tout va bien, c'est-à-dire l'équipe atteint ses objectifs, Le transfert de connaissances se fait, ou en tout cas le transfert de ce qu'il y avait à acquérir est fait. Donc, cette équipe-là a pour objectif de disparaître et c'est maintenant l'équipe recevante qui va prendre ça en main. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec? C'est-à-dire, on n'y arrive pas. Puis imaginons que c'est tellement compliqué ce qu'on a, qu'on se rend compte que ce n'est pas possible, là, que l'équipe puisse prendre ça en main. Donc, est-ce que ça va amener à réaligner les équipes vers d'autres choses?
Ouais, les différentes options qui sont possibles, je pense que c'est d'en parler justement avec les parties prenantes, à savoir c'est quoi la meilleure solution, mais l'idée c'est de pas de rester sur l'échec, puis c'est d'apprendre à partir de là. Donc je pense que c'est simple de se poser des questions, puis de se rendre compte que ça marche pas, puis de trouver une autre solution. Alors, on n'a pas parlé après, on pourra y revenir, mais il y a différents modes de collaboration entre les différentes équipes aussi, puis je pense que ça aussi, ça peut jouer sur la réussite ou l'échec d'une collaboration entre deux équipes, là. Mais sinon, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment compliqué, puis que il y a peut-être pas, ça devient trop pour une équipe, il y a un concept qui est très, très fortement cité dans le livre qu'on appelle le concept de charge cognitive, qui lui, finalement, met des mots sur le fait que ben une équipe, c'est pas vrai qu'elle peut tout savoir puis tout comprendre. T'sais, avant, on faisait du waterfall là, dans le passé. On livrait des solutions, on analysait pendant des semaines, on codait, on testait, on livrait, on mettait en opération, puis on supportait un peu. Chacun avait son rôle là-dedans. Puis là, ben aujourd'hui, on demande aux mêmes personnes de comprendre toute cette chaîne-là, de travailler en agile, d'intégrer beaucoup, beaucoup de connaissances puis de pratiques dans une même équipe, ce qui amène quand même une certaine charge puis une difficulté là, pour les individus qui travaillent dans ce mode-là. Puis à un moment donné, on va sûrement être obligé de dire que là, ben la charge cognitive de notre équipe là est trop grande, il faut que j'y en enlève, faut que j'y enlève des responsabilités, il faut que je morcelle le problème pour arriver à le gérer. Donc ça, ce concept-là, c'est un des critères qui va nous amener finalement peut-être à séparer en différentes équipes, puis à confier des responsabilités à une autre, puis former une équipe à côté qui va prendre une partie du problème finalement.
Ça me fait penser au fameux principe de responsabilité unique quand on parle de programmation par composante. Mais ta composante ne devrait pas avoir plus qu'une responsabilité. C'est sûr que c'est difficile de demander à une équipe d'avoir une seule responsabilité, mais comme tu dis, si elle a trop de charges cognitives à un moment donné, c'est quoi qui se passe? C'est qu'elle devient non productive ou
Oui, ben en fait.
trop de communication ou...
Ben, il peut avoir différents symptômes, là, finalement, mais ça reste qu'elle va devenir effectivement non efficace parce qu'elle va probablement avoir trop de choses à maîtriser, puis elle n'y arrivera pas. Puis c'est normal là, de demander de frapper une limite là, dans ce qu'on est capable de faire. On peut pas demander aux développeurs de faire de l'agile, de connaître l'inversion des dépendances, de tout coder comme il faut, puis en plus de faire de l'intelligence artificielle, puis faire du DevOps, puis maîtriser toutes les structures IP puis de réseautique. À un moment donné, ça rentre pas nécessairement dans la tête de tout le monde. On a une limite.
Oui, mais si on regarde les offres d'emploi sur LinkedIn, ça ressemble à ça à peu
Oh, oui. T'sais, ils veulent tous avoir des gens qui connaissent le dernier framework web depuis 15 ans, mais il existe juste depuis 2 ans.
Ouais, exact.
Il y a une
Mais
autre
est-ce que...
solution.
Oui,
Excusez-moi,
vas-y.
vas-y. Ben, je disais qu'une autre solution à ça aussi, des fois, c'est de former ce qu'on appelle la quatrième équipe, là, l'équipe de sous-systèmes compliqués, où on va identifier justement une partie du problème, puis on va pouvoir l'isoler. Chez nous, on a une équipe qui, pour moi, est apparue comme faisant partie de celle-là. Là, c'est on a justement une partie de nos calculs d'assurance, finalement, qui sont très, très complexes, puis qui sont représentés dans ce qu'on appelle un moteur de calcul. Puis celui-là, ben, il est vraiment très compliqué, puis on a beaucoup de produits, on a beaucoup de trucs qui sont interreliés là-dedans. Fait qu'au final, naturellement, il s'est créé une équipe qui a des compétences très, très particulières, puis qui sont agencées ensemble pour arriver à livrer ce service-là finalement aux autres équipes. C'est pas une équipe de plateforme là, parce que ça dessert pas l'ensemble de l'organisation, puis c'est pas ça fait partie quand même d'un domaine je dirais circonscrit, mais c'est quand même un sujet qui est très complexe, puis pour lequel l'expertise est rare. Donc on a des gens qui ont travaillé beaucoup des actuaires là-dedans, qui ont des très très fortes connaissances en mathématiques. avec des développeurs et des gens plus d'assurance qualité. Donc, on a mis tout ça ensemble pour former une équipe que moi j'appellerais là, de sous-systèmes compliqués. Là.
Donc, puis c'est un bon exemple que tu donnes parce que ça permet vraiment de comprendre clairement là, à quoi ça sert. Puis j'imagine, si on revient un peu sur la notion de charge cognitive, le symptôme qui va souvent arriver, c'est que, comme tu dis, faut créer des nouvelles équipes. Puis là, faut chercher, mettons, dans une équipe qui est au niveau de la valeur ajoutée qu'on livre. Donc, si, mettons, j'ai une équipe que son but, c'est de vendre des systèmes financiers. Si demain matin, ben, il faut qu'ils se mettent à être capables de faire des modèles d'intelligence artificielle pour être capables de faire de la modélisation, ben, peut-être qu'on pourrait justement dire, on va partir une nouvelle équipe spécialisée pour faire ça, puis aller acquérir ce savoir-faire-là. Puis comme ça, on va enlever la charge cognitive à cette équipe-là parce que ça leur en fait trop là, de maîtriser ces choses-là en même temps que de continuer à livrer la valeur qu'ils doivent livrer aux clients.
Exact.
Moi, ce qui m'intrigue dans ce que tu fais comme métier dans ton organisation, c'est que essentiellement, bon, tu prends connaissance de ce livre-là. Tu es familier avec la loi de Conway. Mais grosso modo, votre groupe chez dans votre est-ce que vous êtes essentiellement une équipe de plateforme votre équipe ou vous êtes plus une équipe enabling pour tu positionnerais un peu ton groupe par rapport à ces types d'équipes là?
Ouais, nous, on est plus dans le enabling là, de notre côté. Là. On est plus en mode coaching au niveau des équipes, puis on se promène puis on essaie de justement de partager les connaissances qu'on a. Fait que dans notre groupe à nous, c'est beaucoup ça. Par contre, on a comme un petit cousin proche là, qui en fait une équipe qui met en place tous les outils qu'on pourrait appeler d'ingénierie logicielle. Là.
Mm-hmm.
Donc, la suite Azure DevOps avec les outils que ça demande pour gérer les aspects plus compliqués là, de conformité, avec les réglementations qu'on a à suivre. Bon, ben, on a une équipe qui s'occupe de ça. Puis ça, je dirais que c'est peut-être plus une équipe un peu comme plateforme. Donc, on voyage un peu entre les deux, mais on a différents groupes de personnes là, parce qu'on est plus nombreux que... C'est parce qu'il faut respecter la taille aussi d'une équipe. Hein. En Scrum, ils disent toujours 7 plus ou moins 2. Amazon utilisait le 2 pizza size. Là.
Ouais,
donc, c'est ça. Si on n'a pas assez de 2 pizzas pour nourrir l'équipe, ça veut dire que l'équipe est trop grosse. C'est pas mal ça qui devient un peu la norme là, finalement dans l'industrie. Puis à un moment donné, on n'a pas le choix de séparer ça en équipe. Mais nous, dans notre groupe, on est plus mon groupe proche, là, je dirais. Là, on est plus dans le enabling team. Là.
Puis je cherche à comprendre le lien avec. Parce que tu me disais qu'il y a un groupe proche qui est tout l'outillage d'ingénierie logicielle. Puis. Ce qui est où le lien avec infrastructure, opération, c'est à cause de l'adoption du DevOps que c'est arrivé dans vos équipes ou
Oui, effectivement, il y a eu une prise de conscience à un moment donné suite à la présence de certains gestionnaires dans des conférences. À un moment donné, c'est apparu évident pour plusieurs qu'il allait falloir changer notre façon de se structurer pour arriver à adopter le DevOps comme il faut. Les gens d'infra voyaient bien là, qu'on arrivait avec l'automatisation puis qu'on allait tout scripter puis tout ça. Bon, plusieurs qui se posaient la question, est-ce que nos départements TI traditionnels vont disparaître? Est-ce qu'on laisse la place et on donne tout ça aux développeurs? Est-ce qu'il reste encore de la place pour des gens plus techno là, qui connaissent les infrastructures? Mm-hmm. Parallèlement à ça, il y avait beaucoup une phrase qui voyageait dans l'organisation qui est le « you build it, you run it ». Bon, mais quand on voit qui est responsable de quoi dans tout ça, traditionnellement, on avait des gens qui s'occupaient des infrastructures puis qui s'occupaient du niveau de service. Mais si jamais il y avait quoi qui tombait, c'était eux qui étaient responsables. Mais là, quand on dit on est DevOps, l'équipe est pluridisciplinaire, elle s'occupe de tout. Ça veut-tu dire que ces gens-là n'ont plus de travail? Donc, il y a plusieurs questionnements là en parallèle. Suite à une conférence, comme je disais, où ils sont allés, ils ont demandé finalement à notre groupe d'arriver avec une recommandation de vers où on devait aller finalement chez Agro Financier pour se positionner là-dessus, pour s'aider à adopter le DevOps. Puis de là sont venus les travaux de sur le livre Team Topologies, puis sur la réflexion qu'on a eue à l'interne, puis on vivait certaines problématiques là-dessus, on avait définitivement des choses qui nous empêchaient d'aller vite, de livrer de la valeur, parce que les équipes de réalisation n'avaient pas la même mise sur l'infrastructure, puis sur un paquet de sujets, puis devaient se tourner de bord vers d'autres équipes qui eux autres devaient leur fournir ces services-là, mais l'intégration ou du moins l'arrimage entre tous ces différents acteurs-là devait se faire par l'équipe de réalisation, l'équipe qui avait livré la solution. Puis ça, ben ça fait demander beaucoup de gestion. Puis imaginez une équipe qui est habituée, c'est difficile, mais une équipe qui est formée temporairement ou qui est toute nouvelle dans l'organisation, mais elle connaît pas les gens, elle a de la misère à découvrir les processus, ça venait très très lourd pour arriver à coordonner tout ça puis à apprendre comment ça devait fonctionner dans l'organisation. Donc il y avait des douleurs, il y avait des choses qui étaient pas adaptées, puis au final il y a des réflexions qui sont entamées, puis on demandait à nous de faire une recommandation. C'est pour ça qu'on est arrivé avec tout ce cheminement là puis pour être honnête, on est vraiment au début de ça. On est en train de se donner une ligne directrice puis une cible vers où aller, mais ça va juste nous permettre après ça de clarifier les communications puis les réflexions après quand on a justement une équipe à créer ou qu'on a une responsabilité à donner à quelqu'un. Mais là, on sait un peu plus, on va savoir un peu plus comment discuter de ça puis à quoi on doit faire attention quand on a ces discussions-là, finalement, à cause justement des différents types d'équipes qu'on a vues, mais aussi on a différents critères là, qui vont venir nous aider à déterminer quand est-ce qu'on devrait morceler une équipe. On parlait de la taille tantôt, la charge cognitive. Ça donne un gabarit là, finalement, pour travailler les discussions entre les différents gestionnaires.
Est-ce que vous vivez aussi chez vous une vision un peu naïve ou qui est souvent plus une vision de développeur que de gens plus opération, une vision un peu naïve de dire, ben l'infra, vu qu'on s'en va sur le cloud, ben on n'aura plus de serveurs chez nous, donc toute cette équipe-là, ben ils vont disparaître, on va les enlever, là, on n'aura plus besoin. Est-ce que vous viviez aussi cette difficulté-là d'être les gens ont peur de perdre leur emploi, donc ils vont être un peu réfractaires au changement, ou vous étiez déjà passé à une autre étape?
Non, c'est encore, même aujourd'hui, là, je dirais que c'est encore très, très à jour là, comme perception. Là, on a encore des gens qui se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. Il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise avec ça, puis c'est normal. C'est des gros changements de rôle pour certains. On a aussi des équipes de développement qui se disent non, je suis capable de tout prendre, mais à un moment donné, quand ils se mettent à gratter, ils se rendent compte que finalement, il y en a peut-être plus qu'ils pensaient à gérer. Fait qu'on a un peu de tout, là.
Mm-hmm. Ouais, puis Dieu sait que la job du spécialiste en infrastructure là, elle disparaît pas. Puis même, je dirais qu'elle s'est complexifiée parce que là, tu dois maintenir des systèmes qui sont distants. Donc c'est pas un type d'emploi qui va disparaître demain matin. Là.
Non, parce que les développeurs ils font des architectures distribuées aujourd'hui, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est le champion du log corrélé puis d'être capable de faire des traces qui sont faciles à comprendre. Hein, fait que il y a encore de la job là, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la vraie vie. Puis c'est ça. Fait que on c'est pas prêt de partir. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les équipes qui étaient plus distribuées, ben, qui étaient plus segmentées par créneau de métier, là, donc mettons des responsables juste de base de données, des responsables juste de VM ou des choses comme ça, ça va peut-être tendre à se réduire.
Sécurité, ça c'est.
Oui, c'est un autre secteur qui est généralement qui donne lieu à beaucoup de discussions pour dire ça comme ça.
Ben, c'est parce que moi, ça me fait toujours. Ben, je suis toujours. Tu sais, quand on dit, il y a un groupe de sécurité, c'est comme, ben, c'est transversal partout. Là, comment ces gens-là savent tout, là? C'était un peu la pensée magique. Là, c'était un peu comme il y a très, très, très longtemps, les gens, ils nommaient quelqu'un dans l'organisation en disant, OK, toi, tu vas être en charge de l'ISO. Puis après ce qu'on t'a nommé, ben, on va devenir ISO dans quelques... on a un plan de match. D'ici 24 mois, là, on va aller passer notre certification ISO. Puis là, c'était comme, ben non, la qualité, c'est dans toutes les opérations. Donc, t'as pas un responsable. C'est tout le monde doit être responsable. Puis, moi, j'ai toujours un peu cette même prise de conscience-là par rapport à la sécurité. En disant, ben, la sécurité, c'est un peu partout, là. Tu peux pas dire, c'est parce que t'as nommé trois personnes, puis tu l'as... OK, peut-être qu'ils vont porter le chapeau si un jour vous avez des problèmes de sécurité, vous aurez quelqu'un pour vous récongédier, mais ça réglera pas vos problèmes. La réalité, c'est... la sécurité,
c'est... une culture.
Ouais, donc vous vivez ça là, littéralement ces groupes-là, les experts en stockage, BD, ça aussi c'est un domaine très très avec une forte culture. Donc comment on ramène ça? Donc la solution, c'est-tu d'aller vers de créer des équipes plateformes plutôt que de les laisser comme étant des équipes de support?
Oui, effectivement, c'est sûr qu'on voit, puis tu sais, dans le fond, on n'a rien inventé, là, mais c'est ce qui se remarque là, finalement dans la plupart des partages d'expérience qu'on est capable de voir. C'est que justement, ces équipes-là vont faire un peu plus de place à des équipes plateforme qui vont venir abstraire, puis surtout packager l'ensemble de ces services-là. Donc, si moi, en fait, comme équipe de réalisation, je veux déployer une application web, ben, je veux pas vraiment savoir que j'ai besoin d'avoir deux VM parce qu'ils sont load balancés avec une plage IP de réseautique qui va être dédiée avec. Tout ce que je veux, c'est déployer mon application web, dans le fond. Puis, ben, c'est peut-être le rôle à une équipe dans l'organisation de s'assurer qu'on est capable d'offrir ce service-là. Tu veux déployer une application web? Parfait. Voici comment en faire. Moi, je m'occupe du reste, puis j'ai déjà arrimé ça avec les différentes équipes, puis je t'ai fait un chemin tracé, finalement, pour déployer ton application. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à offrir les flexibilités que tout le monde voudrait avoir peut-être des fois, mais si on est capable de gérer le 80% des cas d'utilisation qu'on a, ben on a déjà fait un gros gain. Puis on peut penser que c'est une vision très grande entreprise, mais il y a beaucoup d'exemples qu'on a aussi dans d'autres organisations comme Pinterest ou qui pourraient paraître plus alléchante, là. Donc Pinterest chez Google ou même chez d'autres organisations comme ça, il est arrivé à un moment donné où ils se sont dit, OK, mais là, peut-être qu'on a besoin d'équipes plateforme pour arriver à faire un gain là, d'échelle finalement dans l'organisation parce qu'on se rend compte que tout le monde réinvente la roue. Premièrement, ben, ça peut être difficile de gérer de la désuétude, ça peut être difficile dans un contexte hautement réglementé d'arriver à faire des audits qui prennent pas la moitié de l'année ou d'arriver à fournir les informations dans les délais requis. Il y a plusieurs avantages à centraliser certaines affaires. Qu'on le voit dans d'autres organisations là, qu'on pourrait dire qui sont plus en vogue là. Donc c'est pas quelque chose qui justement réservé aux grandes organisations qui ont de la misère à se moderniser là. C'est pas nécessairement ça. Par contre, faut mentionner qu'il y a un danger à créer ces équipes plateformes-là. Étant donné qu'on met une équipe qui est plus centralisée, qui va offrir un service pour plusieurs, ben le danger, c'est que ça devienne encore une fois un goulot d'étranglement dans le flux de livraison de valeur. Puis c'est là qu'il faut arriver à contrecarrer ça, puis à rester vraiment vigilant par rapport à ça, en se donnant, comme je disais tantôt, des indicateurs qui vont nous permettre de suivre pas juste finalement le nombre de demandes qu'on traite, mais aussi la valeur ajoutée qu'on a livrée aux consommateurs dans notre plateforme. Puis en se donnant ces indicateurs-là, probablement qu'on va être capable de mieux gérer le goulot d'étranglement. Puis il va falloir aussi que les gens qui fournissent des plateformes bien, soient au-devant des besoins. Ils ne peuvent pas attendre en mode réactif de recevoir des 20 demandes pour le mois prochain. Là, ça fonctionnera pas. Donc, ils vont devoir avoir une vision puis entreprendre une démarche de gestion de produits puis aller au-devant des besoins finalement pour le reste de l'organisation.
Puis moi, je suis curieux, quand vous mettez en place vos équipes plateformes, est-ce que vous les jumelez avec... des équipes, une équipe enabling ou plusieurs équipes enabling sur des objectifs très précis, où vous dites, ah ben non, on met en place l'équipe plateforme, ben elle aura ces objectifs-là, donc il va falloir qu'elle soit comme un peu comme une équipe enabling au démarrage. Comment vous y prenez là, pour démarrer des équipes plateformes où on jumelle différents métiers?
En fait, je pourrais pas dire qu'on a vraiment un pattern, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'expérience là, dans ça. On est en train de se donner la cible qu'on discute là, donc on n'a pas beaucoup de retours, mais c'est effectivement ça. C'est l'idée principale, c'est de travailler justement en collaboration étroite entre deux équipes au départ, parce que des fois, on ne saura pas si ça vaut la peine d'investir dans une plateforme puis de le formaliser avec un libre service. Peut-être qu'au début, on va essayer de travailler en deux équipes pour démêler quelque chose, puis on se rend compte finalement, non, ça c'est vraiment juste propre à vous, là, puis vos besoins sont trop spécifiques. Donc, vous devriez rester avec ça puis en faire la gestion de votre côté. C'est pas réutilisable, dans le fond. D'autres fois, on va se rendre compte justement que c'est très réutilisable, puis il y a une complexité, donc ça vaut la peine de sortir dans une plateforme. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on va vivre. Mais ce qui est le fun de faire travailler, justement, quand on décèle qu'il va y avoir peut-être un lieu de donner une place à une équipe plateforme, mais c'est justement de faire travailler cette potentielle équipe-là avec une ou deux équipes clients. Puis là, ils vont pouvoir travailler en étroite collaboration, là. Donc pas de demande de réservation de gens ou de dans votre courriel de faire non, on s'appelle, on travaille quasiment ensemble, puis on a juste des responsabilités un peu différentes dans l'équipe, puis on essaie de faire ressortir finalement un contrat d'échange. Puis un contrat d'échange de deux façons, en termes d'API au niveau de la plateforme, comment on va le consommer, qu'est-ce que je vais donner comme information pour y arriver, tout ça, mais aussi en termes de communication, donc comment je vais pouvoir faire pour interagir avec les gens qui soutiennent ça pour travailler ensemble. Donc, c'est à deux volets, puis c'est vraiment important de se poser ces questions-là quand on détermine, quand on commence à travailler ensemble, en fait, pour arriver à justement déceler le moment où on dit, OK, ben là, je pense qu'on est arrivé dans le récurrent, puis on n'a peut-être plus besoin de se parler aussi souvent, de faire, admettons, des rencontres à toutes les semaines ou d'être au même mêlé du Scrum, des choses comme ça. On peut peut-être prendre un peu de distance, puis justement, ben là, peut-être qu'il y a une autre équipe qui a un nouveau besoin, puis on va aller travailler plus près avec cette équipe-là pour capturer le besoin, puis le travailler, pour après ça l'offrir à scale à d'autres équipes.
Mm-hmm. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si vous êtes au début de ce cheminement-là, vous êtes tout de suite conscient que il y a des éléments à regarder là ou qui pourraient être des feux jaunes à un moment donné. Donc c'est intéressant parce que souvent quand on fait des changements opérationnels comme ça, là, on se dit bon ben on va prendre le temps, on va y arriver, tout ça, puis c'est tout le monde est au positif, puis on s'attend pas peut-être à avoir de problèmes, mais vous êtes tout de suite conscient là, que ah ça si on fait pas attention il peut arriver telle chose je trouve ça intéressant.
Ouais, puis je dirais que c'est ce qui est très difficile à contrecarrer, c'est les vieux réflexes là. C'est on tombe vite dans nos vieilles pantoufles comme on dit. Puis c'est on met une équipe en place, ça commence à livrer de la valeur, puis on se dit ben là faut pas qu'elle arrête. Donc la gestion des opérations de tout ça, le support, on va le donner à une autre équipe pour qu'elle continue à livrer de la valeur. Mais quand on fait ça, ben là, on se retrouve à être pas mal comme le modèle d'avant. On n'a rien réglé au final. Mm-hmm. Ce qui est dangereux, c'est de retomber dans un modèle qui n'est pas DevOps, puis qui où on sépare les devs, les ops, si on peut dire, donc l'équipe qui livre, l'équipe qui supporte. Puis là, ben on va avoir de la misère à peut-être amplifier notre loop de feedback comme on le souhaite en DevOps. Donc c'est très fragile cet équilibre-là, puis ça prend des gens qui sont très conscients de ça, puis qui se questionnent fréquemment sur est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on est on target sur ce qu'on voulait, puis se donner le droit justement de changer. Ça, c'est un gros aspect du livre Team Topologies, où ils disent finalement que on peut se définir une topologie de départ, une structure d'équipe, mais c'est pas quelque chose qui est statique ou qui est fixé dans le temps. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer parce que les besoins vont changer, puis les équipes vont maturer. Donc ça va être c'est quelque chose qui va bouger, puis il faut que ça bouge, il faut que ça change dans le temps. Sinon, on va sûrement endurer des problématiques trop longtemps.
C'est de l'agilité au niveau de l'organisation.
Exactement.
Puis là, un des premiers projets ou l'équipe plateforme que vous avez décidé de mettre en place, c'est pour Kubernetes. C'est-à-dire que j'imagine chez vous, le mouvement vers des architectures microservices y est entamé. Puis là, vous commencez à vivre les défis que ça pose de déployer tous ces microservices-là de façon prévisible, répétable. De fois en fois, c'était même pas encore un microservice, c'est juste déployer nos sites web, donc quelque chose de plus granulaire, de plus gros, mais avec Kubernetes, on a aussi des gains. Donc, pourquoi Kubernetes dans un premier temps?
Ben, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. On a commencé notre passage à l'info nuagique, nous autres, ça fait pas tellement longtemps. Donc, on voulait y aller un peu plus tranquillement en utilisant peut-être les services un peu plus simples d'utilisation au départ. Mais assez vite, on s'est fait rattraper finalement par les équipes, les Stream Align Team. Là, finalement, qu'eux autres imaginaient des solutions qui étaient beaucoup plus agressives, je dirais, en termes d'architecture. Puis, il y avait ça. Donc, le virage, ils voulaient le faire au nouveau microservice assez rapidement. L'autre chose, c'est qu'on a aussi, comme on disait tantôt, pour les commodités, ben on va acheter des solutions, puis on se rendait compte de plus en plus que les solutions qu'on voulait acheter, ben ils se déployaient facilement sur Kubernetes, puis un peu moins facilement sur d'autres choses. Donc mm-hmm. c'est aussi un facteur qui amène une organisation à se doter d'une capacité comme celle-là d'avoir une plateforme pour héberger ces solutions qui devient un peu qui abstrait les détails puis qui est capable de gérer un peu n'importe quel type avec les containers, là, c'est facilitant pour ça. Donc c'est un peu de là que c'est venu. Mais à vrai dire, on avait déjà entamé un virage plus DevOps, mais avec des technologies plus on-prem au début. Puis on travaillait beaucoup sur les essais automatisés, puis on arrivait à avoir des bons gains là-dessus. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de « OK, mais je veux faire du blue-green, je veux faire du canary deployment, je veux faire du déploiement à chaud surtout. On est tanné de rentrer le soir ou la fin de semaine pour faire nos livraisons. Comment qu'on s'arrange pour faire ça? » C'est un peu tout ça qui a mené à l'adoption du cloud, puis aussi à une plateforme peut-être comme Kubernetes. Là. Évidemment, c'est le choix un peu de facto aujourd'hui. Là, donc, c'est
ouais.
qu'on va vers... Mais est-ce que le fait de mettre en place une équipe Kubernetes, est-ce que, bon, Est-ce que c'est principalement comme des nouveaux employés que vous avez été chercher ou vous avez misé plus en disant non, non, on va aller rechercher des employés qui étaient au niveau d'infrastructure mais qui ont de l'intérêt? Et puis là, ma question aussi, ben, faut commencer par cette question-là, puis j'irai avec une autre question plus tard.
Ouais, ben on était relativement chanceux là-dessus dans le sens où on a eu en janvier 2019, si je me trompe pas, le début de l'info nuagique, où on a décidé déjà de mettre plusieurs personnes de plein de départements ensemble dans la même équipe. Donc on avait des gens de sécurité qui étaient dédiés, on avait des gens plus DevOps, on avait des gens plus infrastructure, d'autres gens plus, ben, en tout cas, on avait vraiment un spectre large là, de compétences dans l'équipe. Puis on s'est rendu compte que c'est ça que ça prenait pour faire avancer ce genre de dossier-là. Fait que quand on est arrivé dans le mode ben, sur la plateforme Kubernetes, on a assez facilement convaincu les gens que ça prenait encore une fois des gens de plusieurs horizons pour arriver à livrer ça. Dans Kubernetes, on va gérer la sécurité, les opérations, la consommation de ressources, le déploiement, l'architecture quasiment. On va gérer ça tout en même place. Donc, c'est plus difficile de séparer toutes ces sphères d'activité-là dans différentes équipes et de les faire interagir ensemble que si on les met dans la même équipe. Donc, on a tablé là-dessus et on a récupéré beaucoup des gens qui étaient déjà sur place. Évidemment, il a fallu se faire aider de l'externe, mais je dirais qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui vient des gens qui étaient déjà en place là, dans l'organisation.
Puis, qu'est-ce que cette mise en place de Kubernetes, est-ce que vous avez eu des allumages à faire? Tu sais, une application, essentiellement, on la résume souvent en disant, écoute, c'est du traitement avec des données. Donc, du processing des données. Donc, si on regarde du côté données, vous aviez déjà en infrastructure des équipes de BD et tout ça. Est-ce que vous avez eu des allumages à faire avec ces équipes-là? C'est-à-dire, commencer déjà à voir comment eux vont changer leur façon de travailler ou c'est encore à la frontière, puis c'est pas encore quelque chose que vous avez abordé.
C'est quelque chose qui est déjà très très bien perçu là, par l'équipe effectivement de BD pour prendre un autre en exemple. On avait déjà commencé ces discussions-là quand on parlait des services PaaS là, dans Azure, c'était la même problématique. Pour être honnête, on n'est pas vraiment rendu bien loin dans la mise en place de Kubernetes comme tel. On est vraiment au début. Puis l'équipe, pour dire, est même pas concrétisée. Là, on a des gens qui travaillent ensemble, oui, mais c'est pas garanti que ça va rester comme ça. Là, on est amené à évoluer là-dedans.
Donc,
Fait qu'on est plus en termes d'enabling thing présentement, là, puis on va voir comment ça va changer par après.
on pourrait dans 12-18 mois refaire une émission avec toi pour faire un retour sur un peu votre
Oui,
réflexion.
effectivement. Ça se pourrait que ça ait bien gros changé.
Non,
Ah ben oui, mais ça démontre l'agilité. Tu n'as pas le choix de t'adapter, puis de faire des essais, puis de, comme tu disais tantôt, là, d'être conscient des changements qu'on pourrait apporter là, en cours de route.
Ouais, ben on va souhaiter qu'on se donne le droit de changer les choses puis d'ajuster. Pour l'instant, on n'a pas assez de vécu pour ça, pour le dire, mais on souhaite que ça tourne comme ça. Puis pour revenir à la question des différents départements là, ou spécialités là, vont être amenées à évoluer, mettons les données, tout ça, ben effectivement, il va falloir voir comment ils vont interagir avec le reste de l'organisation. Il n'y a peut-être pas une grande valeur pour eux à créer des nouvelles bases de données, à les rendre disponibles, les sécuriser. Ils pourraient peut-être automatiser ça puis l'offrir en live service, qui leur donnerait probablement plus de temps à aider les gens à monter une bonne structure de base de données, à ajouter des index, à les rendre performantes. À s'assurer que les gens ont fait les backups correctement puis qu'ils consomment pas trop de ressources, c'est faire plus du service conseil là, finalement autour de la gestion de leur base de données plutôt que de servir de bras finalement pour provisionner les choses là, qui n'étaient pas une grande valeur ajoutée pour un humain finalement. Bon, si une machine peut le faire, il n'y a pas grande valeur à payer quelqu'un pour le faire.
Carole, je pense que ça fait un bon tour, un bon survol de tout ce que le livre traite, de ce que vous êtes en train de faire chez IA, Services financiers, avec ce nouveau savoir-faire-là. Puis, je pense que c'est intéressant. Donc, j'imagine que là, les premiers défis, ça va être de voir comment va aller votre plateforme Kubernetes. Puis peut-être de la mise en place d'autres équipes, c'est ça le plan de match dans les prochains mois.
Oui, exactement. Dans le fond, on va voir comment on peut étendre le modèle plus largement dans l'organisation, puis voir s'il y a d'autres équipes, plateformes qu'on pourrait dire, là, qui pourraient voir le jour. Mais c'est ça, l'idée, c'est d'y aller tranquillement, puis de voir comment on peut mesurer les résultats qu'on obtient là, par différentes métriques. Donc, ça va être ça qui va être la suite pour nous. Puis, évidemment, ben, on va voir comment ça évolue.
Ben écoute, on va vous souhaiter bonne chance parce que c'est vraiment quelque chose d'assez d'envergure en train de faire, puis c'est fort intéressant. Puis si tu es à l'aise, ben peut-être que dans 12-18 mois, ben on te recontactera, puis on fera peut-être un retour sur où est-ce que vous en êtes rendu, ce que vous avez appris. J'imagine qu'en étant agile, il y a des chances que même une grosse partie du plan original soit pas celui que vous allez avoir suivi, mais ce qui va être correct aussi, là.
Oui, absolument. Ça ferait plaisir.
Bon, ben sur ce, on te remercie.
Oui, merci beaucoup, Carole. Ça a été super intéressant.
Et merci à vous, messieurs, pour l'invitation.
Puis nous, on va souhaiter bonne programmation ou bonne architecture à nos auditeurs. Puis on va vous revoir le mois prochain. Donc, à la prochaine.
Au revoir. Studio Talk Show.